France Inter.
Citoyens et citoyennes,
camarades,
compagnons,
travailleuses, travailleurs,
françaises, français.
Et tous les autres, suivez-moi en quête de politique pour compléter notre collection de ismes, mieux comprendre les idées et les mots de la politique, leur histoire, leur signification et leurs évolutions.
En quête de politique. Thomas Legrand sur France Inter.
Dernier épisode, les racismes.
Le peuple grec est un peuple d'élection. Notre culture est supérieure, notre civilisation, nos hommes sont supérieurs.
Attention !
Tous les autres peuples sont des barbares.
Est-ce que quelqu'un peut nier qu'il y a plus de justice, plus d'ordre matériel et plus d'équité, plus de vertu sociale dans l'Afrique du Nord depuis que la France a fait sa conquête ?
L'homme nordique devait être courageux, entreprenant, aventureux. Ensuite venait la race westphalienne, c'était la race de l'attachement à la terre. Après venait la race dinarique, c'était la race montagnarde. Ces trois meilleures races aryennes se trouvaient mêlées en une seule personne, notre Führer.
Propos racistes, passage à tabac. Ils mettent en lumière le traitement réservé par une partie de la population tunisienne aux migrants subsahariens.
Que faudrait-il pour fonder le racisme ? Il faudrait deux affirmations. Un, les races humaines, ça existe. Deux, on peut les hiérarchiser. Or, il se trouve que la science les détruit l'une et l'autre.
Dans ce dernier épisode, nous allons retrouver l'historien spécialiste des empires coloniaux et de la mondialisation, Pierre Saint-Garavelou, pour comprendre comment les naturalistes Buffon ou Linné établissent des classifications, comment plus tard Arthur de Gobineau, qui n'est pas un scientifique, tentera quand même d'établir avec la craniométrie par exemple une hiérarchie humaine, race, racialisme. Est-ce que différencier, classifier, même au mépris de la vérité scientifique, mais sans parfois hiérarchiser, est aussi du racisme? Comment les nazis se sont servis des théories d'Arthur de Gobineau? Comment enfin Claude Lévi-Strauss ou Albert Jacquard en France ont popularisé la démonstration de l'inexistence des races? Et comment le racisme s'est adapté quand même, racisme culturel, social, retour du racisme religieux? Nous retrouverons à la fin de cette émission Catherine Kokri-Vidrovitch, historienne spécialiste de l'esclavage, pour évoquer la concurrence et même la controverse entre l'antiracisme universaliste et l'antiracisme différentialiste, ou dit woke.
Ce qui est plus intéressant pour nous, c'est la différence sensible des espèces d'hommes qui peuplent les quatre parties connues de notre monde. Il n'est permis qu'à un aveugle de douter que les blancs, les nègres, les albinos, les hottentotes, les lapons, les chinois, les américains soient des races entièrement différentes. Voltaire, Essai sur les mœurs et l'esprit des nations. 1756.
Les quatre races d'hommes. La race blanche, la plus parfaite des races humaines, habite surtout l'Europe, l'ouest de l'Asie, le nord de l'Afrique et l'Amérique.
Extrait du manuel scolaire Le Tour de France de deux enfants en 1877.
Elle se reconnaît à sa tête ovale, à une bouche peu fendue, à des lèvres peu épaisses. D'ailleurs, son teint peut varier. La race jaune occupe principalement l'Asie orientale, la Chine et le Japon. Visage plat, pommettes saillantes, nez aplati, paupières bridées, yeux en amande, peu de cheveux et peu de barbe. La race rouge, qui habitait autrefois toute l'Amérique, a une peau rougeâtre, les yeux foncés, le nez long et arqué, le front très fuyant. La race noire, qui occupe surtout l'Afrique et le sud de l'Océanie, a la peau très noire, les cheveux crépus, le nez écrasé, les lèvres épaisses, le bras très long.
Ce racisme naturaliste ou pseudo-scientifique, une fois disparu au cours du XXe siècle, singulièrement après la Seconde Guerre mondiale et la Shoah, a trouvé d'autres voies pour s'exprimer. D'abord, le racisme culturel. Le sociologue Pierre-André Taguieff, sur France Culture, en 1988, explique cette mutation.
En un sens, on peut dire que c'est un néo-racisme, que ce que j'appelle le racisme différentialiste, se travaillant sur la culture plutôt que sur la race biologique, définit une véritable mutation idéologique. Mais en un autre sens, on peut considérer qu'il y a toujours eu coexistence, dès l'apparition d'un racisme biologique explicite vers le milieu du XIXe siècle, entre ces deux formes. Une forme expressément biologique, fondée sur, disons, un matérialisme de la race zoologique, et d'autre part, un racisme qu'on pourrait appeler, si vous voulez, historico-culturel. Racisme renvoie à race, et nous avons totalement oublié le sens historico-culturel de la race, le sens, disons, aristocratique, pour privilégier le sens zoologique mis en place par les naturalistes au XIXe siècle.
Direction la Sorbonne à la rencontre de l'historien Pierre Saint-Garavelou que nous avions quitté à Marseille après la visite de l'exposition Une autre histoire du monde au MUCEM à la fin du premier volet d'enquête de politique consacré au racisme. Et pour ce dernier épisode, il nous faut insister pour comprendre l'origine et donc la cause et la nature du racisme. Il le faut si l'on veut vraiment le combattre et sortir de cette querelle vaine qui agite le monde antiraciste aujourd'hui entre les universalistes et les différentialistes, souvent aussi appelé woke. Pierre Saint-Garavelou, on a vu avec nos autres invités différentes sortes, différentes formes de racisme culturel, scientifique, religieux, social, mais on n'arrive pas vraiment à déterminer quand commence le racisme. Est-ce que ça commence avec les Grecs qui considèrent que tous ceux qui ne sont pas Grecs sont des barbares? Est-ce que ça commence avec la traite des esclaves, où il faut justifier de différences et d'une hiérarchie pour pouvoir commercer avec des meubles, finalement, puisqu'ils ont le statut juridique de meubles? Est-ce que ça commence plus tard, avec, à la fin du XIXe siècle, des théories scientifiques poussées? Quand commence le racisme?
Ah, c'est l'éternel débat et question des historiennes et des historiens qui s'interrogent sur l'origine de tel ou tel phénomène. Vous savez, c'est le démon des origines qui est évoqué par Marc Bloch et qui fait que cette question a suscité de très nombreux débats historiographiques. On peut naturellement remonter très en amont et considérer et retrouver des formes de racisme dès l'Antiquité, mais on peut aussi considérer que, au fond, il s'agit plutôt d'ethnocentrisme, hein, cette manière de considérer qu'on se trouve soi-même au centre du monde et qu'on est très différent de tous les autres. Eh bien, c'est ce qui caractérise la quasi-totalité des sociétés à l'époque ancienne, à l'époque dite médiévale.
Ça, c'est ce qu'on a un peu vu avec vous dans une autre émission en visitant l'exposition au MUCEM.
Oui, et donc on peut aussi s'intéresser en fait au processus de racialisation, c'est-à-dire c'est ce qui a requis de nombreux chercheurs ces dernières années, essayer d'étudier comment les savants, notamment européens, mais pas seulement, ont construit des catégories raciales. Et il se trouve que on observe un moment particulier qui débute au XVIIIe siècle, avec les naturalistes, le célèbre Linné, Blumenbach, Buffon, un peu partout en Europe, des savants s'interrogent sur, disons plutôt sont fascinés par la diversité humaine et tentent de la comprendre, de lui donner du sens en classifiant, en catégorisant le vivant, d'abord les animaux et puis rapidement les hommes.
Et ils les classifient tout de suite en les hiérarchisant?
Eh bien oui, pour la plupart. Si on pense par exemple à Linné, considère qu'il existe plusieurs races, la race blanche, la race jaune, la race rouge, les Amérindiens, la race noire, et il leur confère des caractéristiques singulières, en considérant par exemple que la race blanche se distingue par son intelligence exceptionnelle et sa capacité de créativité par rapport aux autres races, et donc il y a instantanément une hiérarchisation de ces différentes races.
Sa devise, c'était Dieu crée, Linné ordonne. Et cela concerne aussi bien sûr les humains.
Radio France Internationale, reportage en Suède, 100 ans après, sur les lieux de l'Institut de biologie raciale inspiré par les thèses du naturaliste Carl von Linné.
Pour lui, l'espèce humaine pouvait être séparée en 5 différentes races ou variétés. La race rouge était joviale et libre, selon Linné. La race noire, lente, négligée, paresseuse. La race jaune, cupide et fière. Et les blancs, créatifs et entrepreneurs. À ses débuts, Linné mettait en avant des facteurs géographiques et sociaux pour expliquer les différences entre ces variétés. Mais dans les dernières éditions de son ouvrage Systema Natura, il privilégie ses traits psychologiques. Il y avait aussi une cinquième catégorie qu'il appelait les monstres.
Ces chercheurs-là, en fait, ces intellectuels-là, à cette époque, donc au XVIIIe siècle, estiment tout de suite que ce sont des raisons scientifiques ou ils pensent que c'est une construction culturelle?
Alors,
qui fait cette hiérarchie?
Il s'agit, à l'époque, de science, c'est-à-dire ce qu'on considère aujourd'hui comme des études pseudo-scientifiques qui se fondent à partir de ce moment-là sur la biologie humaine, à partir de l'étude des phénotypes et puis ce qui va donner très rapidement, à partir du début du 19e siècle, l'émergence de nouvelles sciences anthropométriques, puis la phrénologie, la craniométrie, l'étude des crânes suivant le volume du cerveau, l'angle facial, l'angle nasal.
Le nègre commençait à le museau saillant et la face et le crâne comprimé par les côtés. Le calmoul qui a le museau plat et la face élargie.
Extrait du film La Vénus Noire en 2010 d'Abdelatif Kechiche.
Notre Boschiman a le museau plus saillant que le nègre, la face plus élargie que le kalmouk, et les os du nez plus petits que l'un et l'autre. À ce dernier égard, surtout, je n'ai jamais vu de tête humaine plus semblable au singe que la sienne. Ce qui est bien constaté dès à présent, et ce qu'il est nécessaire de redire, tant l'erreur contraire se propage dans les ouvrages les plus nouveaux, c'est que ni ces Galas, ni ces Boschiman, ni aucune race de nègres n'a donné naissance au peuple célèbre qui a établi la civilisation dans l'antique Égypte, et duquel on peut dire que le monde entier a hérité des principes des lois, des sciences et peut-être même de la religion. Aujourd'hui que l'on distingue les races par le squelette de la tête et que l'on possède tant de corps d'anciens Égyptiens momifiés, il est aisé de s'assurer que quel qu'ait été leur teint, ils appartenaient à la même race d'hommes que nous, qu'ils avaient le crâne et le cerveau aussi volumineux, qu'en un mot, ils ne faisaient pas exception à cette loi cruelle qui semble avoir condamné à une éternelle infériorité les races à crâne déprimé et comprimé.
France Inter, en quête de politique. Thomas Legrand.
Nous sommes toujours avec l'historien Pierre Saint-Garavelou, co-auteur du catalogue de l'exposition « Une autre histoire du monde » chez Gallimard, et nous en sommes à l'élaboration d'une pseudo-science des races.
Donc toute une série de pseudo-sciences qui visent, encore une fois, à catégoriser les êtres humains en fonction de leur apparence, mais aussi de l'intérieur du corps humain, puisqu'il s'agit aussi de travaux d'anatomie comparée.
Donc on invente ou on croit rechercher des corrélations entre des caractéristiques physiques, parfois même osseuses, viscérales, enfin toutes sortes de caractéristiques, et une corrélation avec l'intelligence, les capacités.
L'intelligence, les capacités, les mœurs, les pratiques sociales. C'est pourquoi il est assez difficile, au fond, à partir de ce moment-là, de distinguer le racisme biologique de ce qu'on a appelé parfois le racisme culturel. Et ce qui est intéressant, si vous voulez, du point de vue des historiennes et des historiens, c'est de ne pas en rester à une analyse dite internaliste, c'est-à-dire ne pas se focaliser uniquement sur l'étude des discours racistes, l'étude de ces pseudo-sciences, mais essayer de voir quelles ont été les appropriations de ces discours, les usages sociaux, comment ils ont été reçus. Par exemple, j'ai travaillé sur l'histoire des sciences coloniales en France au 19e et au 20e siècle, et je vois bien comment le racisme biologique structure l'enseignement de ces sciences coloniales dans la deuxième moitié du 19e siècle et au début du 20e siècle. Ça ne pose pas de problème, ce racisme biologique fait consensus. En revanche, ces propos racistes suscitent pour la première fois dans les sources que j'ai étudiées des réactions critiques de la part des étudiants en 1910-1911. C'est l'origine d'une grande controverse dans le milieu universitaire parisien, puisque il s'agit de l'école coloniale, l'école qui formait les administrateurs, les hauts fonctionnaires coloniaux et puis les magistrats coloniaux qui se trouvaient à Paris, qui a été fondée en 1889. Et j'ai travaillé donc dans les archives et notamment dans les cahiers de cours des étudiants, de ces futurs hauts fonctionnaires. Et on s'aperçoit que en 1910-1911, il y a un cours qui pose problème, un cours dispensé par Louis Vignon. Louis Vignon, c'est un maître des requêtes au Conseil d'État, une des grandes figures de la science coloniale française. Il enseigne un peu partout, à Sciences Po, à l'école coloniale, dans les universités, où il dispense sa connaissance de la colonisation, un cours justement précisément intitulé « Colonisation française ». Et dans ses cours, eh bien, il propage les plus vulgaires stéréotypes sur les hommes africains, leur incapacité intellectuelle, etc. Et on retrouve dans les notes des élèves tous ces propos. Et en fait, ces élèves, au terme d'un cours précisément sur l'homme noir, se plaignent de ces discours racistes auprès de la direction de l'école coloniale. Cela remonte au ministre des colonies, Paul Dissler, et ça crée une polémique où on se demande si ces propos sont tolérables. Et finalement, au terme de nombreuses discussions, on considère que ce fameux Louis Vignon a tenu des propos des propos non orthodoxes, c'est la formule retenue par le ministère des colonies. Et en réalité, en dépit des critiques formulées par les élèves, l'administration considère plutôt que ce qui est gênant dans le cours de Louis Vignon, parce que ça donne lieu à une inspection et tous ces cours sont relus par les fonctionnaires, notamment à travers les cahiers de cours que j'ai pu étudier, et ils s'aperçoivent que ce qui est gênant, c'est pas tellement le racisme biologique, mais plutôt le fait que Louis Vignon critique systématiquement la politique coloniale française dans ses enseignements à l'école coloniale. Donc on voit bien que ce qui est intéressant, c'est de voir que, en l'occurrence les élèves ici, mais ça vaut pour le reste de la population, reçoit ces discours de manière très différenciée. Et il faudrait davantage s'intéresser précisément à cette réception, à la manière dont on s'approprie ces stéréotypes racistes, la manière dont on peut aussi les critiquer. Et on voit comment, en fait, à partir des années 1910 et de l'entre-deux-guerres, le principe de justification du racisme, et notamment dans les cours de l'école coloniale, mais en général dans l'université française, le principe de justification cesse d'être progressivement biologique, et mobilise d'autres arguments, notamment culturels, psychologiques, mésologiques, c'est-à-dire on revient à la fameuse justification par l'environnement, la tropicalité, la chaleur, le climat, la nourriture qui explique les différences raciales, les différences entre les populations, plutôt que la biologie humaine.
Mais alors on va revenir un petit peu en arrière, parce que là on est au début du XXe siècle. On passe au 19e, je voudrais que vous nous parliez, Pierre Saint-Gravelou, d'Arthur de Gobineau, qui n'est pas scientifique et qui pourtant a fait un traité sur les races humaines, sur l'inégalité des races humaines.
Oui, alors Arthur de Gobineau publie cet essai sur l'inégalité des races humaines en 1853. Vous l'avez dit, ça n'est pas un scientifique, c'est un diplomate, écrivain, qui, en revanche, comme beaucoup d'auteurs de cette époque, ambitionne d'utiliser le modèle des sciences naturelles pour interpréter l'histoire. Et c'est ce qu'il dit explicitement dans son essai. Et en fait, c'est ce qui aussi explique la difficulté de lire au fond Gobineau, parce que c'est un texte qui est très long, qui est souvent confus, contradictoire, qui mêle les sciences naturelles à l'histoire et à la littérature. Et donc dans cet ouvrage, Gobineau, et c'est pour ça qu'il a été retenu, cité, invoqué, convoqué par de très nombreux intellectuels et puis
hommes politiques, jusqu'au nazisme.
Jusqu'au milieu du XXe siècle. En fait, toute une série de personnes qui n'ont pas lu Gobineau dans le texte, mais qui ont retenu que Gobineau était le théoricien de la supériorité de la race blanche, de la race indo-arienne.
Et en effet, race blanche a le monopole de la beauté, de l'intelligence et de la force, dit-il.
L'histoire humaine est semblable à une toile immense. La terre est le métier sur laquelle elle est tendue. L'étoffe n'en revêt pas une seule couleur, elle ne se compose pas d'une unique matière. Les deux variétés inférieures de notre espèce, la race noire, la race jaune, sont le fond grossier, le coton et la laine que les familles secondaires de la race blanche assouplissent en y mêlant leur soie, tandis que le groupe aryan, faisant circuler ses filets plus minces à travers les générations ennoblies, applique à leur surface, en éblouissant chef-d'œuvre, ses arabesques d'argent et d'or. Arthur de Gobineau, Essai sur l'inégalité des races humaines, 1884.
Il s'agit pour Gobineau, en fait, d'expliquer l'histoire à travers le développement de ces trois races principales que seraient la race blanche indo-aryenne, la race noire et la race jaune. Il considère, Gobineau, et c'est, disons, l'originalité, entre guillemets, de la singularité de sa thèse, il considère que c'est le métissage, le mélange des races qui est le moteur de l'histoire. Et c'est pourquoi il a une vision très pessimiste de l'histoire, puisque il considère que ce métissage conduit à la décadence de la race supérieure qui serait la race blanche. Mais il étudie ce phénomène de rencontre entre les races depuis la haute antiquité en montrant que, par exemple, le génie artistique résulte de la rencontre entre la race blanche et la race noire. Donc il a comme ça toute une série d'analyses à la fois très précises et très vagues, expliquant que les populations de Malaisie, par exemple, seraient issues de la rencontre entre la race jaune et la race noire, enfin bon, et qui permettent d'expliquer le monde, d'expliquer le développement des civilisations jusqu'au milieu du 19e siècle. Et je disais une vision pessimiste parce que il considère que la race blanche est en pleine décadence parce qu'elle subit cette hybridation depuis des siècles.
Et alors Arthur de Gobineau, sa théorie va être démontée par un homme dont vous avez étudié le travail et qui s'appelle Joseph Athénor Firmin. Il a fait son travail, Joseph Athénor Firmin fait son étude de la théorie, si on peut dire, de Gobineau, juste après la mort de Gobineau. Présentez-nous, Pierre Saint-Gravelou, Joseph Athénor Firmin.
Alors en effet, Athénor Firmin, c'est un personnage qui a été longtemps oublié. C'est un grand intellectuel haïtien d'origine. C'est très important parce que Haïti,
noir, donc.
Il est noir, il est issu de la première république noire, donc indépendante à partir de 1804. Et c'est un directeur de journal, un intellectuel, un homme politique qui décide de s'installer en France au milieu des années 1880 et de participer aux travaux de la Société d'anthropologie de Paris. Alors ça n'est pas un hasard, la Société d'anthropologie de Paris a été un des hauts lieux de la craniométrie, de la hiérarchisation des races.
Alors la craniométrie, faut dire ce que c'est. On mesurait tous les os du crâne, on ouvrait des crânes, on les remplissait de petites boules pour voir combien on pouvait mettre de petites boules dans des crânes de telle origine et de telle origine pour justifier éventuellement de différences de taille de cerveau.
Exactement, et pour ainsi pouvoir hiérarchiser les différentes populations de la Terre, dans la lignée des travaux d'un des membres les plus éminents de cette société d'anthropologie, le professeur Paul Broca, qui est décédé en 1880. Athénor Firmin débarque, si je puis dire, dans cette société d'anthropologie en 1885. Alors, c'est évidemment le seul noir. Et il est toléré précisément parce que n'étant pas africain, mais haïtien, c'est-à-dire considéré comme un semi-civilisé, pour reprendre les termes de l'époque. Et il entend, au cœur, donc dans une des principales matrices de cette idéologie racialiste et bien souvent raciste, il entend déconstruire, démontrer le caractère fallacieux de ces travaux anthropométriques et craniométriques menés par Paul Broca et ses élèves. Et donc il va s'atteler à ce travail, reprendre les différentes mesures effectuées.
Mais lui, c'est un vrai scientifique, c'est pas Gobineau.
Et alors, lui, il va mener l'enquête scientifique et il va publier cet ouvrage intitulé précisément « Essai sur l'égalité des races humaines », qui est une réponse explicite à Gobineau, hein, sous-titré « Une anthropologie positive », qui répond au pessimisme fondamental de Gobineau.
En quelle année il publie ce...
En 1885.
Alors, en 1885. Et alors, comment c'est reçu? Parce que j'imagine que les membres de l'Académie devaient écouter cet homme noir avec des oreilles un peu dubitatives.
Eh bien, c'est pire que cela, puisqu'il y a une absence de réception. On fait comme si ce livre n'avait pas existé. Et c'est pourquoi en histoire, il n'y a pas d'évolution linéaire. C'est-à-dire que d'une certaine manière, en 1885, très tôt, paraît l'antidote aux thèses racistes en cours à ce moment-là. Et il a fallu la fin, l'extrême fin du XXe siècle pour qu'on redécouvre les travaux d'Anténor Firmin, puisqu'à ce moment-là, eh bien, l'opinion publique française, l'opinion publique européenne, comme les savants les plus consacrés, préfèrent regarder du côté de ce qu'on a appelé les zoos humains, c'est-à-dire ces villages noirs, par exemple, organisés à l'occasion des expositions coloniales, des expositions universelles, hein, où, eh bien, les populations colonisées sont présentées comme des populations primitive.
Il y en a eu jusque dans les années 50, en Belgique notamment, les derniers zoos humains.
L'ouverture de l'exposition universelle et internationale de Bruxelles est pour toute la Belgique une cause de joie.
Documentaire de la radio-télévision belge en 1998 sur l'exposition universelle de Bruxelles en 1958 qui comportait le dernier zoo humain connu en Occident.
Et c'est avec fierté que nous voyons le roi présider en personne et en présence de toute la famille royale à l'inauguration de cette entreprise de portée mondiale.
Parmi les jardins somptueux, une savane africaine avait été artificiellement reconstituée avec des plantes bien de chez nous. Mais les pirogues et les huttes étaient plus vraies que nature et d'authentiques indigènes au torse nu déambulaient sous l'œil amusé des visiteurs blancs. Tous les stéréotypes de la colonie belge rassemblés sur quelques centaines de mètres carrés. Le Congo, 2 ans plus tard, serait indépendant, mais personne en Belgique ne s'en doutait ou ne s'en souciait vraiment.
On ne savait pas en réalité ce qui se passe en Afrique. On était là en toute bonne conscience. Il y avait dans ce pavillon des choses très bien, mais il y avait aussi les bons missionnaires barbus, les bons ingénieurs de l'Union minière, les bons noirs dansant autour du feu. Mais il y avait aussi, et ça c'est un des grands souvenirs que j'ai gardé de l'exposition, c'était la présence de tout un groupe de jeunes noirs évolués, comme on disait, comme on les appelait à l'époque, qui ne demandaient qu'à parler avec vous.
Drop. Here's a strange and bitter cry.
Strange Foot, une chanson écrite en 1939, interprétée ici par Billie Holiday, et c'est évidemment une chanson contre le lynchage et la pendaison des Noirs dans le sud des États-Unis avant la guerre. En 2017, la chanteuse Rebecca Ferguson avait proposé de chanter cette chanson, un classique aux États-Unis, à l'investiture de Donald Trump. Et évidemment, ça ne vous étonnera pas, Donald Trump a refusé.
Inter, en quête de politique. Thomas Legrand.
Nous en sommes au dernier épisode d'Enquête de politique consacré au racisme et c'est Christophe Imbert qui réalise l'émission. Franck Olivard nous déniche les incroyables archives, souvent effrayantes, hein, sur un thème comme celui-là. Thierry Dupin s'occupe de la programmation musicale et à la technique aujourd'hui, Nicolas Delmas. Nous sommes à la Sorbonne avec l'historien spécialiste des empires coloniaux et de la mondialisation Pierre Saint-Garavello. Il faut attendre quand pour que l'idée générale, le consensus scientifique se fasse, et au-delà du consensus scientifique, ça se répande quand même dans la population, l'idée selon laquelle les races sont toutes égales, ou même les races n'existent pas. Est-ce que c'est Albert Jacquard qui popularise ça ?
Alors c'est un processus très long parce que en fait on s'aperçoit déjà dans l'entre-deux-guerres apparaissent de très nombreuses critiques adressées à cette théorie raciste et notamment c'est intéressant dans le cadre de la colonisation puisque ces théories ne résistent pas bien souvent à l'épreuve du terrain. Sur le terrain sont envoyés des savants, des médecins coloniaux qui vont étudier les différentes ethnies et qui produisent des rapports, des livres qui contredisent ces théories racistes, qui pourront d'ailleurs promouvoir par ailleurs un racisme dit culturel, hein, se fondant sur l'âme des peuples, sur la psychologie, bon, on l'a dit, sur le milieu, etc.
Religion.
Assez rapidement apparaissent des critiques scientifiques. Ensuite, c'est vrai que c'est la Seconde Guerre mondiale qui marque un coup, disons, d'arrêt définitif. Je veux dire, quand je dis définitif, ça n'est jamais définitif, mais qui disqualifie radicalement ces théories biologiques, fondant ce racisme biologique, et qui fait que, eh bien, alors, des théories qui vont en plus être critiquées au sein des organisations internationales comme l'UNESCO, on connaît le travail de l'anthropologue, Lévi-Strauss, dans son ouvrage, par exemple, Race et Histoire, et ils seront très nombreux au lendemain de la Seconde Guerre mondiale à critiquer scientifiquement le caractère précisément pseudo-scientifique de ce racisme biologique.
Une fois exorcisés les vieux démons de l'idéologie raciste, ou tout au moins après avoir prouvé qu'elle ne pouvait prétendre à une quelconque base scientifique.
Claude Lévi-Strauss à l'UNESCO en 1971.
La voie s'ouvre à une collaboration positive entre généticiens et ethnologues. Depuis une dizaine d'années seulement, nous commençons à comprendre que nous discutions le problème du rapport entre évolution organique et évolution culturelle dans des termes qu'Auguste Comte eût appelés métaphysiques. Cette inadéquation des réponses traditionnelles explique peut-être pourquoi la lutte idéologique contre le racisme s'est montrée si peu efficace sur le plan pratique.
Et il faut attendre, au fond, la seconde moitié du XXe siècle pour que les nombreux travaux sur la génétique humaine, popularisés par exemple par Albert Jacquard, auprès du grand public, eh bien, démontrent que la population mondiale, dans son infinie diversité, possède en réalité 99,7 ou 99,9% de gènes en commun.
Pour moi, la science, c'est d'abord de parler clairement, de définir de quoi on parle.
Le généticien Albert Jacquard dans l'émission Apostrophe sur France 2 en 1978.
Définir de quoi on parle, qu'est-ce que ça veut dire égal, qu'est-ce que ça veut dire différent, qu'est-ce que ça veut dire inégal. Et je m'aperçois qu'effectivement, la génétique montre que nous sommes tous différents, mais qu'il n'y a aucune espèce de moyen scientifique même avec beaucoup de mathématiques, même en prenant des tests les plus compliqués, de fonder la moindre hiérarchie sociale sur ce que nous avons reçu génétiquement. Que faudrait-il pour fonder le racisme ? Il faudrait deux affirmations. Un, les races humaines, ça existe. Et deux, les races humaines, on peut les hiérarchiser. Et il faudra donc s'adresser à la science pour savoir si ces deux affirmations sont correctes. Or, il se trouve que la science les détruit l'une et l'autre.
Donc là, à ce moment-là, on peut dire que le racisme qui perdure quand même prend d'autres voies et n'est plus crédible quand il entend s'appuyer sur des raisons scientifiques. Mais Pierre Singer-Évelou, vous avez parlé de racialiste. Il y a le racisme et il y a le racialisme. Parce que on pouvait ne pas être raciste ou être même antiraciste tout en pensant que les races existaient. Et le mot race, d'ailleurs, qu'on bannit maintenant de nos discours, le mot race était dans des discours très progressistes. Des Jaurès parlent de race. Clémenceau, dans la fameuse controverse entre Jules Ferry et lui-même en 1885 sur la colonisation, parle de race.
Oui, alors il faut dire que...
C'est pas parce qu'on parle de race qu'on est raciste ?
Alors, c'est aussi toute l'ambiguïté du terme race, qui, en fait, est utilisé pour dire, jusqu'à la fin du XVIIIe siècle, en France notamment, pour signifier les lignages et les dynasties aristocratiques. Donc la race franque, la race germanique... Qui a une connotation positive et qui n'a pas, à ce moment-là, de dimension forcément biologique. Et en effet, la race est omniprésente dans le discours politique du 19e et du début 20e siècle. Cela étant, Clémenceau, dans son fameux discours du 30 juillet 1885, où il répond aux propos racistes de Jules Ferry, qui défend la mission civilisatrice des races dites supérieures sur les races dites inférieures, eh bien Clémenceau, lui, critique, en fait, implicitement, et même explicitement.
Justement, Pierre Singer-Évelou, on va l'écouter.
Race supérieure, race inférieure, c'est bientôt dit. Pour ma part, j'en rabats singulièrement depuis que j'ai vu des savants allemands démontrer scientifiquement que la France devait être vaincue dans la guerre franco-allemande parce que le français est d'une race inférieure à l'allemand. Depuis ce temps, je l'avoue, j'y regarde à deux fois avant de me retourner vers un homme et vers une civilisation et de prononcer « homme » ou « civilisation inférieure ». Bravo, bravo. Race inférieure, les hindous, avec cette grande civilisation raffinée qui se perd dans la nuit des temps, avec cette grande religion bouddhiste, avec cette grande efflorescence d'art dont nous voyons encore aujourd'hui les magnifiques vestiges. Race inférieure, les chinois, avec cette civilisation dont les origines sont inconnues. Inférieure, Confucius. Je ne veux pas juger au fond la thèse qui a été apportée ici et qui n'est pas autre chose que la proclamation de la primauté de la force sur le droit. L'histoire de France depuis la Révolution est une vivante protestation contre cette inique prétention. C'est le génie même de la race française d'avoir compris que le problème de la civilisation était d'éliminer la violence des rapports des hommes entre eux dans une même société et de tendre à éliminer la violence des rapports des nations entre elles.
Pierre Singer-Évelou, on vient d'entendre un extrait d'une reconstitution faite par l'Académie française sous l'égide de l'ami Jean Lebrun, de cette fameuse controverse entre Jules Ferry et Clémenceau en 1885, au moment où on se posait la question de l'évolution de la politique coloniale française. Et là, le terme de race est utilisé par les deux.
Oui, et bon, Clémenceau, pour le coup, est quelqu'un de très ouvert sur le monde, très curieux, notamment il est passionné par les sociétés extrême-orientales.
Il veut pas hiérarchiser les races, mais il reconnaît les races quand même.
Alors, je pense que c'est un peu plus compliqué que cela.
Il veut changer l'acception du mot race, peut-être.
Alors, on peut lire dans son discours tout de même une forme de critique du concept même de race. puisque il dit bien que il faut se méfier de cette idée de race, puisqu'aujourd'hui, c'est-à-dire en 1885, les élites allemandes considèrent que la race française serait inférieure à la race germanique, et donc on voit bien comment Clémenceau comprend déjà à cette époque que tout racisme est un essentialisme et que le racisme est au fond un des outils les plus dangereux et les plus efficaces au service d'une domination. Une domination, mais quelle qu'elle soit. Nous sommes en 1885. Que ce soit évidemment la domination coloniale de la France sur les populations du Tonkin ou d'Afrique subsaharienne, mais que ce soit aussi potentiellement ou par le passé la domination de la France par l'Allemagne. Et donc il y a bien là, si vous voulez, une critique de ce racisme comme idéologie politique.
Finalement, Pierre Saint-Gravello, on a l'impression que le racisme comme machine à justifier toutes les dominations s'adapte, change de nature. Et où est-ce qu'il en est aujourd'hui, le racisme ?
Ben, on en a parlé, le racisme a muté, mute constamment, en devenant, pour certains, racisme culturel. Pour d'autres, on parle de racisme à propos de toutes les formes de discrimination, et c'est évidemment discutable. On a parlé de racisme anti-gros, de racisme anti-jeune. On voit bien que le risque, c'est évidemment que le concept
se
dilue. Mais en même temps, ce lien entre domination et idéologie raciste est très intéressant parce que il nous permet précisément de comprendre ces mécanismes sociaux. C'est le sociologue Pierre Bourdieu qui nous a rappelé à la fin du XXe siècle qu'une des formes les plus efficaces, les plus importantes, mais les moins visibles de racisme était ce qu'il appelait le racisme de l'intelligence.
On peut tuer pour des goûts. Enfin bon, je pense qu'il y a une forme de racisme, ce que j'appelle le racisme de classe ou le racisme de l'intelligence, enfin bon, qui est d'une violence extrême dans la mesure où les goûts sont, comme on dit, viscéraux. Enfin, et les goûts, c'est notre position dans les classements, devenu corps, devenu mot, devenu nous-mêmes. Bon, et ces goûts sont évidemment des dégoûts.
Le sociologue Pierre Bourdieu, France Culture, en 1979.
Et il n'y a rien de pire que cette forme de dégoût des autres, enfin, qui est un dégoût, déclassement des autres, de leurs attitudes, de leurs pratiques, etc. Bon. Et je pense donc que nous sommes aujourd'hui dans une société qui se reproduit en grande partie par l'intermédiaire du système scolaire, pas seulement évidemment, bon, où les dominants se sentent légitimés dans leur domination, dans leur intelligence, enfin bon, c'est-à-dire dans leur être, dans leur nature, et du coup le racisme de l'intelligence, je pense, devient une des formes les plus vicieuses, enfin, du racisme.
Encore faut-il redéfinir ce mot de racisme, puisqu'il ne s'agit plus de race, mais de groupe,
oui,
peut-être.
Oui, enfin, bon, je pense, si vous voulez, qu'il y a racisme, enfin, dès le moment où on enferme les gens dans une nature, dans une
essence. Intolérance.
Oui, plus que ça, enfin, où on condamne, on enferme, on persécute, enfin, des gens au nom de choses qui sont imputées à leur nature, bon. Alors qu'en autre chose, par exemple, elles peuvent être le produit de la culture. On traite comme une liberté, des choses qui sont un destin, etc. Bon. Et je pense que cette extension de la notion de racisme, me semble importante, enfin, pour savoir que le racisme est jusque dans des choses qui paraissent très, très innocentes, comme par exemple le fait pour les intellectuels de se sentir le droit de signer des pétitions, etc. Bon, je pense que il faudrait que les intellectuels antiracistes, enfin bon, s'interrogent sur la solidarité qu'ils ont avec certaines formes très subtiles de racisme, comme celle qui consiste à opposer des gens intelligents et des gens idiots.
Ce racisme de l'intelligence, selon Pierre Bourdieu, eh bien, il justifierait tout l'édifice social, tout l'ordre social. Et en fait, c'est ce racisme de l'intelligence qui fait que les groupes dominants, et notamment c'est le cas en fait encore aujourd'hui, se sentent d'une essence supérieure.
Merci pour ces explications. Merci Pierre Saint-Gravello. On va se retrouver peut-être l'année prochaine, dans quelques mois, parce que on va préparer une série d'émissions sur le néocolonialisme, le décolonialisme, le postcolonialisme, et on aura besoin de vous. Merci Pierre Saint-Gravello. Pour conclure cette émission, nous retournons à Malakoff chez l'historienne spécialiste de l'Afrique et de l'esclavage, Catherine Kokri-Vidrovitch. Racisme, racialisme, universalisme, différentialisme, comment le respect de la variété humaine se confronte avec l'idée de son unicité. «
Au 19e siècle, il y avait beaucoup de racialisme, parce qu'il y avait beaucoup de races, et on y croyait, aux races. Mais le racisme, c'est véritablement quand on refuse la réalité, on refuse la science pour dire qu'on est raciste. Et ça, c'est un phénomène relativement récent.
Comment vous voyez, vous, qui avez étudié ça depuis des décennies, comment vous voyez ce débat aujourd'hui entre les racistes universalistes et ce qu'on appelle les woke ou les intersectionnels? Est-ce que vous avez un avis? Est-ce que vous...
Ah oui, 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 j'ai tout à fait un avis. Je trouve que c'est absurde.
Qu'est-ce qui est absurde?
Ce qui est absurde, c'est de penser que les hommes ont des idées fixes de cette façon et qu'il y a une opposition entre ce qu'on appelle l'universaliste et l'universel et le...
Des différences.
Et les woke. Il y a des excès des deux côtés, effectivement. Les universels disent, schématisons un peu, c'est le siècle des Lumières, on n'a jamais fait mieux que le 18e siècle, donc l'universel est profondément humaniste occidental.
Donc il y a des discriminations, mais il n'y a pas de racisme, mais, enfin il n'y a plus de racisme, c'est des discriminations, il suffit de se battre contre les discriminations et tout sera réglé.
Voilà. Et les woke revendiquent des chemins divers pour la culture, pour l'évolution, et la possibilité de cohabiter entre des tendances différentes et de ne pas tous se bloquer sur la supériorité, finalement, de la race blanche et de la culture occidentale. Donc, l'universel, en réalité, il est très complexe. Et je dirais, les universalistes purs et durs refusent la complexité de l'universel.
C'est-à-dire, pour vous, voir la complexité de l'universel, ça n'est pas... Rediviser, alors qu'on pourrait penser que certains woke, en allant trop loin, resubdivisent et finalement combattent mal ce qu'ils considèrent combattre.
Bien sûr. Mais je veux dire, ils combattent mal, mais ils ne combattent pas plus mal que les universalistes de leur côté. Il y a eu toute une série de grandes publications, de pétitions par des savants divers en France. C'était l'année dernière, ou il y a deux ans, enfin il y a quelques années. Des universalistes ou des non-universalistes, disons, oui. Pour condamner complètement l'opposition. C'est contraire à la complexité du monde. Le monde est extraordinairement complexe. Vous avez des gens qui ont suivi tous les itinéraires, toutes les cultures, toutes les idées depuis des siècles et des siècles, qui se sont mélangés, qui vont se remélanger et qui chaque fois vont donner des versions différentes. Mais tout ceci doit être compris dans un ensemble qui déborde, qui dépasse tout le monde, qui englobe tout le monde. Et l'opposition entre le wokisme et l'universel me paraît stupide. Parce que c'est nier justement la complexité de l'universel. L'universel n'est pas simple.
L'universel n'est pas simple, c'est sur cette phrase de Catherine Cochry-Vidrovitch que nous concluons cette série sur le racisme, à réécouter en podcast. Merci aux nombreuses voix de la rédaction de France Inter qui nous ont permis d'illustrer l'histoire du racisme par des lectures souvent terribles. Tu nous fais dire des horreurs, me disait Dorothée Barba. Oui, c'est vrai Dorothée, mais c'était pour la bonne cause. Merci donc à Franck Olivard, Redouane Tella, Xavier Yvon, Dorothée Barba et Jean Broussier. Merci aussi à Alexandre Martin pour la prise de son à la Sorbonne, avec Pierre Saint-Garavello. N'oubliez pas que vous pouvez nous suggérer des ismes à traiter. On prépare déjà la saison prochaine. Vous pouvez nous écrire sur la page de l'émission sur franceinter.fr à ce sujet ou sur Instagram. On se retrouve le week-end prochain, samedi à 18h ou dimanche à 23h, c'est la rediff. Et quand vous voulez, bien sûr, en podcast. D'ici là, n'oubliez pas, si vous ne vous intéressez pas à la politique, c'est la politique qui s'intéressera à vous.